France Culture.
Le journal vous est présenté par Mélanie Kuzelevitch.
Bonjour à tous. En Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, on l'appelle la guerre silencieuse. Chaque jour, des maisons palestiniennes sont rasées par des bulldozers israéliens sous les yeux des habitants impuissants. Au Canada, une voiture fonce dans la foule à Vancouver à la veille des élections législatives. Et puis, on vous parle du jeu vidéo le mieux noté de l'année. Il est français, vous l'entendrez. Certains Palestiniens l'appellent la guerre silencieuse. Alors que tous les regards sont tournés vers Gaza, chaque jour, des centaines de maisons palestiniennes sont détruites en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, parfois rasées par des bulldozers, parfois explosées à l'explosif. Ces démolitions s'accélèrent depuis le 7 octobre 2023. Des démolitions annoncées quelques jours avant aux habitants aussi impuissants que désespérés, comme à Silwan, en bordure de la vieille ville de Jérusalem où vous vous êtes rendu, Amira Swilem.
Depuis plusieurs jours, chez les Aouda, un seul sujet de discussion.
Regarde, c'est le dernier avertissement avant qu'ils ne viennent détruire l'aile de la maison dans laquelle vit mon frère avec sa famille. C'est un courrier officiel. Là, on peut voir le logo de la municipalité de Jérusalem.
Depuis la réception de ce courrier, la vie de Qutayba Aouda et de sa famille est en suspens. Dans le salon, la mère de famille raconte ses déboires à des proches.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ma petite fille a déplacé sa tirelire chez son autre grand-mère parce qu'elle a peur que les soldats la lui prennent.
Le quartier de Silwan se trouve à quelques encablures seulement de la vieille ville de Jérusalem, un endroit stratégique. Israël, qui a annexé Jérusalem-Est en 1980, tente d'en faire partir désormais la population palestinienne. Qutayba Aouda nous sert de guide dans le dédale des ruelles. Dans ce seul quartier, 26 maisons ont été détruites l'an dernier.
Quand on te détruit ta maison, tu n'as nulle part où aller. Tout ce que tu peux faire, c'est essayer de louer un bien dans le coin.
Les autorités israéliennes disent détruire des constructions illégales. Les Palestiniens répondent, eux, qu'on ne leur octroie pas de permis de construire.
La municipalité détruit les maisons, mais ça ne s'arrête pas là. Après cela, ils nous envoient la facture du bulldozer, des soldats, des chiens, des frais en lien avec la destruction. Donc on se retrouve à devoir payer pour que nos maisons soient détruites.
Alors que le gouvernement israélien compte des partisans assumés du Grand Israël, rien ne semble pouvoir arrêter cette frénésie de destruction.
Le reportage à Jérusalem d'Amira Swilem. Nous sommes tous en deuil, réagit le premier ministre canadien Justin Trudeau. Un automobiliste a foncé sur la foule lors d'un festival à Vancouver. Plusieurs personnes sont mortes et d'autres sont blessées. Le festival rend hommage à un meneur de la lutte anticoloniale du XVIe siècle aux Philippines. Aurélien Tirard, cela s'est passé vers 5h du matin, heure française.
Il est 20h, heure locale à Vancouver, quand une voiture fonce sur la foule. Un SUV noir, selon les différentes vidéos relayées sur les réseaux sociaux. Le pare-choc et le capot sont complètement détruits par la violence du choc. Des vidéos montrent également des équipes d'urgence en train de se précipiter sur les lieux. Une rue fermée à la circulation est cernée de food trucks avec plusieurs personnes allongées au sol. Certaines sont blessées et reçoivent des massages cardiaques. La voiture a foncé sur des personnes qui célébraient la culture Philippines, dans un festival de rue de cette grande ville de l'ouest du Canada. Le conducteur, lui, est en garde à vue. Il est trop tôt pour savoir s'il agit de manière délibérée. « Nous sommes tous en deuil », déclare le Premier ministre canadien. Mark Carney avait prévu de se rendre dans cette province de la Colombie-Britannique aujourd'hui pour ses derniers meetings de campagne. Les élections législatives ont lieu demain au Canada.
En Iran, le bilan s'alourdit encore. L'explosion dans le plus grand port commercial du pays a fait au moins 25 morts et plus de 800 blessés, selon les derniers chiffres. Elle est probablement partie d'un incendie dans un dépôt de stockage de produits chimiques et dangereux, expliquent les douanes. Ce port de commerce est situé sur le détroit d'Ormuz, 1000 km au sud de Téhéran. C'est par là que transite un cinquième de la production mondiale de pétrole. Fin de partie pour Just Stop Oil, jet de sauce tomate sur un tableau d'Andy Warhol, blocage d'autoroute. Pendant 3 ans, le collectif écologiste britannique a marqué par ses actions coup de poing. Alors que certains membres sont toujours derrière les barreaux, les militants décident de mettre fin à leurs activités. Une fin de mobilisation célébrée devant le siège de Shell à Londres. Laura Calmus.
Ils raccrochent leur tablier.
Devant le siège social de Shell, les militants ont tendu un fil pour accrocher un à un leur emblématique gilet orange Just Stop Oil. Parmi les manifestants, Mel Carrington se félicite du chemin parcouru.
Aujourd'hui, c'est la dernière action Just Stop Oil, une célébration de la résistance civile et de la fin de notre campagne réussie contre l'exploitation de nouveaux gisements de pétrole et de gaz.
Le mouvement affirme avoir atteint son objectif, obtenir l'engagement du Parti travailliste à interdire tout nouveau projet pétrolier ou gazier au Royaume-Uni.
Vous pouvez écrire des centaines de lettres, ça ne changera rien, mais nous avons fait énormément de bruit et nous avons fait évoluer la politique du gouvernement.
Depuis sa création, Just Stop Oil a multiplié les actions spectaculaires, blocage d'autoroute, jet de soupe sur un tableau de Van Gogh ou peinture sur l'avion de Taylor Swift. Autant de coups d'éclat devenus passibles de lourdes peines. À mi-parcours, le cortège s'est arrêté devant la cour d'appel pour afficher son soutien aux militants emprisonnés.
Just Stop Oil est comme une famille. Ce sont des personnes gentilles, loyales, sincères, qui se soucient beaucoup plus des autres que d'elles-mêmes.
Ces dernières années, la répression contre les militants écologistes s'est durcie au Royaume-Uni, limitant leur capacité à défendre publiquement leur action. Actuellement, 11 sont emprisonnés et plus de 3300 arrestations ont été recensées depuis 2022.
À Londres, Laura Calmus. Cap sur les municipales pour les écologistes. Le congrès du parti se déroule en ce moment à Pantin, près de Paris. Et pour ce deuxième jour, responsables et militants se concentrent sur la stratégie élaborée pour les prochaines échéances électorales. Les élections municipales de 2026, l'enjeu, Stéphane Robert, c'est de confirmer et d'amplifier leur implantation locale.
Les écologistes ont pour premier objectif de confirmer leur implantation dans les grandes villes conquises il y a 5 ans, Lyon, Tours, Bordeaux, Poitiers, Strasbourg ou encore Besançon. Tous les maires sortants se représentent, hormis Éric Piolle à Grenoble qui passe la main après 2 mandats. Et ils ont un bon bilan, estime le délégué aux élections du parti, Olivier Bertrand. De fait, après des débuts un peu difficiles, notamment pour Pierre Urmic à Bordeaux qui voulait interdire les sapins de Noël, ou pour Grégory Doucet à Lyon qui jugeait le Tour de France machiste et polluant, ils ont progressivement corrigé le tir en adaptant leurs considérations écologistes aux réalités locales et pourront ainsi mettre en avant leur expérience de gestionnaire. Fort de ce bilan qu'ils estiment satisfaisant, les écologistes aspirent également à conquérir de nouvelles villes et de nouveaux territoires, notamment en milieu rural. Pour ça, il faut que notre discours évolue, reprend Olivier Bertrand, le délégué aux élections. Nous ne devons plus être des lanceurs d'alerte, mais proposer aux électeurs une protection face aux grands dérèglements, qu'ils soient climatiques ou démocratiques. Ils devront toutefois tenir compte du fait que la dynamique n'est plus la même qu'il y a 5 ans. L'écologie a beaucoup moins le vent en poupe aujourd'hui. Ça s'est d'ailleurs traduit par un score aux européennes beaucoup plus faible qu'auparavant. 5,5% en 2024 pour la tête de liste Marie Toussaint, contre 13,5% pour Yannick Jadot, 5 ans plus tôt, en 2019.
Et les précisions de Stéphane Robert. Et puis, focus sur le jeu vidéo le mieux noté de l'année 2025. Clair Obscur Expédition 33, c'est son nom, est sorti cette semaine. Et depuis, c'est une avalanche de commentaires et de notes élogieuses. Il écope de la note 92 sur 100. Un véritable succès pour l'équipe française de Sandfall Interactive et la petite trentaine de personnes derrière ce jeu, Pierre Robert.
Guillaume Broche, le directeur créatif de Sandfall Interactive, a encore du mal à réaliser le succès d'estime que rencontre son jeu vidéo, Clair Obscur, Expédition 33.
C'est l'accomplissement de 6 ans de travail acharné pour en arriver là. On est trop trop contents, quoi.
C'est l'originalité du récit qui fait jusqu'ici l'unanimité. Le jeu débute dans une sorte de Paris surréaliste renommé Lumière. Entre Arc de Triomphe déchiré et Tour Eiffel tordue, les protagonistes du jeu observent au loin, sur l'océan, un monolithe sur lequel est inscrit le chiffre 34. En ce jour du gommage, la Paintress, une étrange créature, efface le chiffre pour le remplacer par un 33. Toutes les personnes âgées de 33 ans ou plus vont alors disparaître.
Les personnages qu'on va jouer dans le jeu, c'est une expédition pour essayer d'atteindre le monolithe et détruire la Paintress pour qu'elle arrête ce compte à rebours vers la fin du monde.
Pour Guillaume Broche, si le jeu rencontre un tel accueil, c'est avant tout grâce à la direction artistique unique qu'il propose, à un scénario très intimiste, mais aussi grâce à un côté français assumé.
Il y a beaucoup de jeux, même des jeux français, qui soit essaient de s'américaniser un peu, soit de se japoniser un peu, mais c'est assez rare les jeux qui assument vraiment ce côté français. Il y en a, mais il y en a peu. Et ce mélange qui est très unique de peinture surréaliste avec d'autres références à la France et aux peintures de la Belle Époque, c'est ce qui a fait que ça a marché.
Ce qui étonne aussi, ce sont les comparaisons faites avec les blockbusters du genre, car Clair Obscur Expédition 33 a été réalisé par une petite équipe, selon Guillaume Broche. C'est ce qui a permis plus de liberté, mais aussi de prise de risque.
C'est sûr qu'avec un petit studio indépendant, on peut se permettre plus de choses. En fait, dans une structure comme Ubisoft avec 19 000 employés, c'est impossible de faire juste valider ce genre de projet qui est beaucoup trop risqué en fait.
Si les chiffres de vente ne sont pas encore connus, le succès d'Estime permet d'imaginer sans peine la naissance d'une nouvelle licence du jeu vidéo français.
Le reportage de Pierre Ropper et puis un mot de météo. Le temps est instable au sud. Ailleurs, le ciel alterne entre nuages et éclaircies. Pour les températures, il fera 18 à Toulouse et 21 à Lyon. C'est la fin de ce journal réalisé par M. Le Chili à la technique Anthony Thomasson.